Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine, présentée par Thierry Paco, philosophe de l'urbain.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme de cette émission, un éditorial sur la notion de logement, à l'occasion d'un appel à manifestation d'intérêt engagé pour la qualité du logement demain, lancé par les ministères de la Culture et du Logement le 14 octobre 2021. La belle rencontre avec l'architecte Christine Lecomte, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, auteur avec Sylvain Grisot de Réparons la ville, proposition pour nos villes et nos territoires aux éditions Apogée. Et le sujet qui fâche, reconfigurer le rez-de-chaussée des villes, ménager le sol urbain, soigner la profondeur, avec David Mangin, architecte urbaniste, Grand Prix de l'urbanisme en 2008.
Urbanité. L'édito.
Malgré le droit au logement élaboré en 1990, la loi dite Besson, du nom du ministre de l'époque, de nombreuses familles ne trouvent toujours pas à se loger décemment. Chaque année, la Fondation Abbé Pierre publie un état du mal-logement en France. Le prochain, le 27e rapport, paraîtra le 2 février 2022. Rapport qui ne note aucune amélioration par rapport au précédent, malgré les promesses gouvernementales. L'on dénombre encore au moins 300 000 SDF sans domicile fixe en France, d'innombrables personnes dans une grande précarité qui logent dans des bidonvilles ou dans des hébergements d'urgence dégradés et inadaptés à l'accueil de cette population pauvre et démunie. L'association Droit au logement, le DAL, née cette même année 1990, ne cesse d'alerter l'opinion sur une situation qui n'honore pas un pays se présentant comme la 7e puissance économique du monde. La ministre du Logement considère prioritaire la construction de nouveaux bâtiments, de nouveaux immeubles, d'accord sur ce point, évidemment, avec le lobby des bétonneurs, alors que des associations, mais aussi des architectes, souhaitent privilégier la réhabilitation, le réemploi, trouvant qu'il y a trop de logements vacants. On en dénombre, paraît-il, 3 millions sur notre territoire. Mais qu'est-ce qu'un logement ? Les lexicographes repèrent une origine latine et citent Vitruve, qui utilise le mot latin logium pour désigner le tréteau et la scène qui agrémente les constructions. Du reste, l'on retrouvera dans le vocabulaire du théâtre le mot « loge » pour désigner un compartiment, un petit ensemble comme ça de sièges bien alignés et qui donnent directement sur la scène. Ils sont donc aux premières loges, évidemment. Ils bénéficient d'une très bonne présence face au spectacle. Depuis, la loge est un petit local, songeons à celui du concierge, évidemment, dans les immeubles. D'autres dictionnaristes ajoutent une filière allemande avec le mot « l'aube », feuillet, tonnelle, qui correspond à une cabane faite de branchages. Le dénominatif « loger » date du XIIe siècle et signifie « établir son camp ». Puis, les aubergistes vont s'en emparer et inscriront sur leurs enseignes « ici on loge à pied et à cheval ». Enfin, le logement, autrefois campement des troupes, devient synonyme d'habitation et de logis. Pour Bachelard, la maison natale est bien plus qu'un corps de logis, elle est un corps de songe. Alors là, il nous faut méditer cette formule que je trouve extraordinaire. Les HBM, habitations à bon marché, sont consacrées par la loi Siegfried, votée en 1894. Ce sont de solides constructions en briques qui offrent aux habitants un confort que bien de nombreux immeubles de l'époque, sur le marché privé, n'ont pas. L'office des HBM de la Seine est dirigé par Henri Cellier, maire de Suresnes, qui plus tard deviendra ministre de la Santé du Front Populaire. Eh bien, Henri Cellier va programmer 15 cités-jardins entre 1921 et 1939. En 1950, les HBM changent d'acronyme, elles deviennent des HLM, des habitations à loyer modéré, et dans Alphaville, Jean-Luc Godard s'amuse à les appeler hôpitaux de longue maladie. Construits économiquement selon le principe du chemin de grue, avec des éléments préfabriqués, les grands ensembles ne font plus corps avec la ville où ils s'installent. Ils possèdent leur propre voirie, leur vaste parking, leur galerie marchande et leur pauvre et désolé espace vert. Architecture massifiée, sans grande originalité, autre qu'une incroyable monotonie formelle, ils ont été très vite des lieux de relégation, abandonnés par les services publics et livrés à une économie parallèle gangrénée par le trafic de drogue. Le logement de demain sera, espérons-le, écologique, décarboné, avec des matériaux bio et géosourcés, habitation soucieuse, une généreuse habitabilité, c'est-à-dire qu'on prendra en compte les itinéraires qui y mènent, parcours largement arborés, végétalisés et jalonnés de commerces, de services et de terrains d'aventure pour les enfants. Ce seront des appartements économes en énergie, donc tous traversants, fruits du nouveau BTP, bois, terre, paille, avec des WC et des salles de bain aérées par des fenêtres et des balcons-terrasses où l'on peut recevoir au milieu d'un jardin. Ils seront protégés des bruits intérieurs et extérieurs afin de garantir un sommeil de qualité aux occupants. On ne construira plus ces gratte-ciels énergivores et inurbains et il faudra recycler ceux qui sont en ce moment même édifiés à contresens de toute habitabilité. Cette architecture d'arrière-garde, née à la fin du 19e siècle, expression du capitalisme financier et de la spéculation immobilière, sera enfin déconsidérée au profit de constructions de quelques étages, bien distribuées et harmonieusement agencées avec les maisons de ville et les jardins avoisinants. Le logement de demain ne sera pas bardé de puces et la maison domotique restera en attente dans l'imaginaire des technophiles béats. Il est temps de cultiver une architecture qui honore les activités qu'elle accueille. Le graphiste allemand Heinrich Zille, enseignant au Bauhaus, confie à son ami l'architecte Walter Gropius, qui dirigeait cette école, qu'on peut aussi bien tuer l'homme avec un logement qu'avec une hache.
Urbanité, la belle rencontre.
Avec Christine Lecomte, architecte et présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes depuis juin 2021. Tu as été d'abord au Conseil de l'Ordre des architectes d'Île-de-France depuis 2013, où tu as impulsé les colloques architectes, un métier en révolution, en 2016, et réparer la ville en 2019, ainsi qu'initier une exposition « Construire en chanvre » en 2018. C'est dire si tu as conscience des enjeux environnementaux que doit relever la profession. Que sont-ils ces enjeux ?
Alors la question, elle est vaste, mais dans le livre, on les a définis autour de trois crises. Donc peut-être que je peux prendre ces trois crises pour parler des enjeux et puis dire qu'il faudra qu'ils se conjuguent avec les aspirations habitantes. Les trois crises du siècle, nous, on les a relevées dans le livre en disant c'est à la fois une crise de ressources, une crise climatique et une crise de la biodiversité. Et ces trois crises-là, elles proposent un nouveau cadre, en fait, finalement, d'exercice de notre profession d'architecte, puisque l'architecture a des possibilités et des solutions pour répondre à ces trois crises-là. Et du coup, l'enjeu de l'architecture aujourd'hui, c'est bien de trouver comment elle va passer d'une architecture du XXe siècle à une architecture du XXIe siècle qui va pouvoir conjuguer les aspirations habitantes avec l'ensemble de ces trois crises. Et donc, dans le livre qu'on a écrit, on essaye un petit peu de trouver les moyens de pouvoir répondre à cette question-là, et notamment aussi peut-être d'éclairer sur ce qu'est le métier d'architecte aujourd'hui et la mutation du métier qui est en train de se produire.
Alors, dans ce livre, vous préconisez les trois A, adapter, adopter et abandonner. Peux-tu nous expliquer le sens de ces verbes ?
Oui, en fait, quand on a commencé le livre, on s'est dit il faut qu'on donne un peu des guides et qu'on dise quelles peuvent être un petit peu les manières de procéder, parce que le problématique du changement, c'est comment on fait. Et la première chose, c'est qu'on s'est dit mais il y a des choses qu'il va falloir abandonner. Donc c'est le premier A, qu'est-ce qu'on laisse de côté ? Et donc dans ce qu'on laisse de côté, c'est peut-être être accro au neuf, être accro à la dépense des ressources, être accro à l'étalement urbain. toute une série de choses qui sont aussi stimulées, ont été stimulées au XXe siècle par la pensée des énergies fossiles et du productivisme, et qui aujourd'hui nous demandent d'avoir un certain recul sur tout ça. Donc le premier A, c'est abandonner. Et les deux autres A, adapter et adopter, voilà. Donc le A de adapter, parce que effectivement, comme il va falloir qu'on s'adapte au changement climatique, mais aussi qu'on s'adapte à des nouvelles conditions d'exercice, c'est la somme en fait des pratiques qu'on peut avoir de manière individuelle ou collective, et qu'il va falloir qu'on fasse évoluer, qu'on adapte à cette nouvelle situation. Donc c'est peut-être ce que va devenir le métier d'architecte, mais ce que pourrait devenir aussi le métier de promoteur, puisqu'il va falloir qu'il évolue, à mon avis, beaucoup, mais également qu'est-ce que va être le rôle de l'élu, et peut-être, et ça c'est fondamental, le rôle de l'habitant, et c'est pour ça qu'on a parlé des sommes des pratiques individuelles et collectives. Et le troisième A, donc après abandonner et adapter, c'est adopter. Et adopter, c'est les nouvelles choses, les nouvelles actions qu'on a à engager, qui sont finalement pas si difficiles à lister, mais finalement elles sont difficiles à engager, parce que on a beaucoup de pionniers, mais on a peu finalement de pratiques ordinaires qui finalement nous permettent pour tout le monde d'adopter des nouveaux gestes, et notamment dans la production. Et là, tu l'as cité tout à l'heure dans ton édito, c'est à la fois la production en matériaux biosourcés, c'est la rénovation, c'est considérer l'existant. On aime bien en fait dire que si on a pris ce titre de réparer, c'est à la fois parce qu'il y avait un livre qu'on aimait bien, enfin, moi que j'aimais beaucoup le titre, c'était Réparer les vivants, mais aussi parce qu'il me fait beaucoup penser à réparer son vélo quand on était petit, et la fierté qu'on peut avoir à réparer les choses. Et moi, je trouve que dans ce siècle de crise, avoir la fierté de pouvoir partir et de se dire on va réparer et on va trouver des solutions créatives avec notre discipline, eh ben, c'est déjà un bon point et un peu d'optimisme.
Alors, est-ce que dans abandonner, tu mets la maison individuelle qui a été diabolisée par la ministre ?
Alors non, on n'a pas mis la maison individuelle parce qu'on l'a pas abordé comme il a été abordé non pas par la ministre, mais on va dire par les lobbyistes qui ont repris une formule de la ministre extraite de son contexte. On l'a abordé en se disant que déjà, si on regarde le nombre de maisons individuelles aujourd'hui, il y en a à peu près 60% qui sont habitées par une personne seule. Donc il y a vraiment une question qui est liée aussi au vieillissement et à l'isolement, mais également au fait qu'on a le droit à la maison individuelle aujourd'hui. Cette maison individuelle, elle apporte énormément de choses qui sont des aspirations des Français, le calme, le confort, la proximité de l'espace extérieur. Par contre, souvent, elle ne permet pas la proximité de tout ce qui sont les services urbains. Et là, il y a un vrai sujet, et surtout le sujet, c'est comment on a séparé en fait deux choses. D'un côté, le logement collectif qui apporterait tout sauf le bonheur individuel, c'est-à-dire en gros la proximité à tout, et de l'autre côté, le logement individuel qui apporterait tout sauf la proximité aux services. Et là, on peut ouvrir la panelle de l'acte architectural et se dire, mais finalement, il y a tellement de typologies urbaines à imaginer, ou déjà imaginer, à reconfigurer, qui peuvent nous apporter en fait tout ce que l'on cherche en termes d'usage. Et finalement, on a beaucoup diabolisé la maison individuelle, mais moi ce que je trouve dingue, c'est surtout qu'on a associé à un certain nombre d'usages une forme urbaine figée. Et ça, je pense que c'est là où il faut se questionner massivement, c'est comment on fait pour changer d'une forme qu'on fige pour répondre à des usages, à finalement des usages que l'on peut traiter différemment selon les contextes et les territoires.
Oui, là, je partage totalement ton point de vue. Ça fait très très longtemps, du reste, que on est quelques-uns à regretter qu'il n'y a pas eu de ménagement urbain de la maison individuelle, ouais. Parce qu'on peut inventer une autre configuration, comme tu le dis très bien. Et ça, c'est un travail qui est stimulant. Du reste, on connaît énormément de réalisations de maisons individuelles groupées de très grande qualité. Et les habitants sont très bien et ne veulent pas partir. Je citerai ce qu'a fait Lucien Kroll ou encore Giancarlo De Carlo en Italie. Bon, donc il y a des choses comme ça. Il faut pouvoir s'en inspirer. D'autant que toutes les enquêtes sur le désir des Français en matière de logement classent en premier la maison individuelle, avec comme argument numéro un la présence du jardin. Et Gilles Clément, le célèbre jardinier que nous connaissons tous, considère que le jardin est la première pièce de la maison individuelle. Donc il ne faut pas l'oublier. Et il y a une dimension écologique aussi dans le jardin. Alors ce qui veut dire qu'il ne faut pas disperser ces maisons. Voilà, là on est dans autre chose. Alors comment écologiser l'acte de bâtir ?
Ah bah alors là, il y a beaucoup de solutions, donc dans le livre on en aborde plusieurs, donc je vais peut-être en prendre quelques-unes.
Oui.
Peut-être la première, on parle de l'architecture du circuit court, donc de repartir des modes constructifs et de travailler, alors on a pris architecture de circuit court parce que c'est un mot qui pour beaucoup de gens est relatif à l'alimentation de circuit court, et tout de suite on fait tilt, on construit avec ce qu'on a. Et donc ce qu'on a nous permet effectivement de travailler ensuite, de faire avec. Et donc, c'est plus important de partir de ce qu'on a que de ce qu'on pourrait avoir en allant le chercher de manière lointaine. Et donc, la question, c'est comment est-ce que on territorialise en fait l'acte de construire en imaginant le développement de filières locales, en imaginant retourner avec des matériaux de proximité. Je pense par exemple en France, on a quand même 15% de notre patrimoine qui est fait en terre crue, donc c'est pas un matériau totalement vieillot et des trois petits cochons. Tu l'as cité tout à l'heure, bois, terre, paille. La question, c'est aujourd'hui comment on développe ces filières, comment on permet aussi à ces filières de se développer. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Ensuite, peut-être un autre point que moi je trouve assez important, c'est l'acte de réparation, l'acte de réhabilitation, le fait que tout ce qui existe, tout ce qui est déjà là, mérite un regard et une considération. Déjà une considération sociale, ne serait-ce que par une histoire, et que l'acte de démolition est bien plus que qu'un acte physique, c'est aussi un acte sociologique qui touche à l'histoire des gens. Et donc, puisqu'on ne doit plus s'étaler et puisqu'on doit rester dans l'enveloppe urbaine, la question de la rénovation, de la recréation, de la réparation devient un acte de création architecturale forte et qui va nous permettre d'inventer des lieux qui peut-être vont pouvoir sortir de ce qu'on a vu en massification standardisée, mais peut-être en travaillant justement à une échelle de la couture, et donc sortir de cette architecture qui a été extrêmement standardisée au XXe siècle pour aller vers une architecture peut-être de la dentelle au XXIe siècle, où parfois il faudra densifier, mais parfois il faudra soustraire pour faire de l'architecture. Et là, c'est formidable parce qu'on peut imaginer des villages où on estimait, ou des villes moyennes où on estimait qu'on ne pouvait pas habiter, et avec la soustraction, on redonne des lieux, on peut redonner des jardins, on peut retravailler finalement à l'acceptation de cette densité. Et donc il y a un vrai rôle pour l'architecte qui va être et pour les urbanistes et aussi pour les paysagistes d'accompagner les habitants, d'accompagner les élus dans cette fabrication urbaine différente. Bon, moi je dirais que c'est peut-être deux axes que je trouve très importants. Le dernier, pour faire un grand pas, c'est peut-être aussi qu'il va falloir changer un peu de culture. On a fait 40 ans d'urbanisme de zoning dont on doit sortir. Donc l'urbanisme de zoning, rappelons, hein, centres commerciaux d'un côté, lotissements de l'autre, etc., qui ont vidé les centres-villes. Et aujourd'hui, on doit passer de cette culture un peu individualisée vers une culture du partage. Et ça veut dire qu'on va se re-questionner sur le sens même du mot ville. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de se dire que les crises et ce moment un peu de frottement entre les habitants peut nous réinterroger sur la manière dont on produit la ville, mais surtout dont on la construit ensemble avec ce qu'on a envie de partager. Et ça peut nous donner aussi une meilleure connaissance de nous-mêmes et un nouveau rôle pour la ville dans la société, beaucoup plus positif.
Donc tu attends beaucoup aussi de transformation des écoles d'architecture, j'imagine.
Bah oui, en fait, on a une transformation qui est déjà en cours parce que les étudiants nous ont pas attendus pour la transformer, et on en voit qui sortent et qui vont dans des directions qu'on n'aurait pas du tout imaginées il y a une dizaine d'années, entre ceux qui travaillent dans le réemploi, ceux qui deviennent ébénistes, ou ceux qui viennent arpenter les territoires, ceux qui créent une revue. Enfin, voilà, il y en a plein qui ont des directions très différentes et qui nous montre en fait la manière dont on est obligé maintenant, en tant qu'architecte, pour pouvoir accompagner ces transformations urbaines, d'ouvrir le champ des possibles, d'être bien en amont de la construction et bien en aval, et en fait de travailler sur une chaîne beaucoup plus longue, une espèce de filière qui nous demande aussi d'énormément connaître le territoire. Moi, je suis extrêmement impressionnée par tous les architectes qui partent en résidence, qui viennent travailler avec des ateliers d'urbanisme extrêmement pointus, où ils construisent, ils n'ont pas peur, en fait, que la conception leur échappe, parce que ils mettent la conception et la fabrication de la ville dans les mains d'un consensus où ils sont chefs d'orchestre, où ils vont travailler sur l'espace, mais où l'écoute et l'humilité fait partie de leur vocabulaire. Et cette nouvelle manière de faire est extrêmement importante, associée aussi à une connaissance des enjeux très fine. Et ça, moi, je vois des nouvelles valeurs et des nouveaux engagements chez les jeunes architectes. qui ne veut pas dire que leurs pratiques ne sont plus diverses et riches. Et c'est ça qui est très fort, c'est que l'architecture garde une valeur d'engagement extrêmement, extrêmement positive, dont on peut être extrêmement fier, mais elle garde aussi une diversité de pratiques et une richesse de pratiques qui permet en fait que chaque territoire, avec des architectes, trouve une solution.
Alors il y a un autre personnage qu'on n'a pas évoqué, est-ce que tu peux en dire deux mots, c'est l'élu.
Oui. Ah bah l'élu aussi va devoir faire un petit quart de tour, donc c'est pour ça qu'on parlait de s'adapter dans nos pratiques et d'adopter des nouveaux gestes. L'élu, il a un autre rôle hein, aujourd'hui, et le rôle aussi de peut-être se mettre en position au milieu de ce cercle, dans ce cercle, et pas simplement en sachant, en étant le décideur. Et la question aujourd'hui, elle est multiple, c'est qu'on doit construire des récits. Voilà, on doit construire des récits parce que, voilà, aujourd'hui on est dans le technique. Vous êtes un habitant, vous voulez construire une extension à votre maison, vous allez à la mairie, on vous donne un règlement de zone. Donc on ne vous explique pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas le droit de construire telle chose ou telle chose, on vous donne tout de suite une règle. La règle ne permet pas à l'habitant de se projeter dans un récit. Et donc la question aussi, et je pense l'un des rôles des élus aujourd'hui, c'est d'arriver autour de leur territoire, autour de ces territoires qui vont devenir des écosystèmes, qui peuvent avoir des modèles peut-être proches de la biorégion qu'on a beaucoup décrit en Italie, mais qu'on doit adapter en France, doit travailler à faire ressurgir en fait ce récit de territoire autour des richesses de ce territoire et de révéler la géographie, l'histoire, ce qui rend fiers les habitants et ce qui en fait leur fait prendre conscience qu'avant toute chose, on habite la terre. On habite un lieu et on habite aussi des milieux. Et comme tu disais tout à l'heure, en fait, on n'aménage pas, on ménage. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je parlais l'autre jour d'habitabilité et d'inhabitabilité du monde. Et c'est vrai qu'il va y avoir des endroits qui seront inhabitables ou moins accueillants. Et donc, la question aujourd'hui de l'élu, elle est aussi dans cette richesse-là. Ça va être un rôle extrêmement fort. Et il faudra sans doute les former et beaucoup les accompagner. Donc moi, je dis un élu, un architecte en accompagnement et en conseil.
Eh bien, écoute, merci beaucoup Christine pour tout ce que tu entreprends et bon courage.
Merci beaucoup à vous deux. Au revoir.
Merci.
Urbanité, le sujet qui fâche.
Aménisons les rues, confortons les rez-de-chaussée, donnons de la profondeur à la ville, pour reprendre un souhait émis par David Mangin, architecte, Grand Prix de l'urbanisme en 2008. Tu expliques, David, que la rue ne doit plus être considérée comme un décor de façade aligné, pas plus, j'imagine, qu'un couloir pour la seule circulation de voitures. Que veux-tu dire par là ?
Alors je pense qu'il y a un petit problème de terminologie dès le départ. Je pense que dès qu'on dit la rue, dans l'imaginaire général des gens, y compris chez les professionnels, c'est l'idée de la rue médiévale commerçante. Donc la grande difficulté, c'est évidemment de sortir de cet imaginaire-là, qui évidemment est très sympathique, mais qui correspond assez peu à beaucoup de réalités. Alors, qu'est-ce qu'une rue ? Donc vous avez des rues très diverses, en, physiquement, en proportion, qui peuvent être dissymétriques, qui peuvent être continues, qui peuvent être discontinues. Vous avez des rues qui peuvent avoir, et on va en reparler tout à l'heure, des fonctions très différentes. Et je distinguerai grosso modo des rues résidentielles et des rues actives. Et pourquoi il faut faire cette distinction ? Parce que les rues résidentielles, en fait, sont très très largement majoritaires dans la demande. Alors quand on dit rue, on pense la rue commerçante. Mais non, pas du tout. La rue commerçante, c'est un cas très particulier de l'ensemble du système de voirie. Et puis un dernier point, la rue ne peut pas se concevoir comme un phénomène figé tout de suite. Si je dessine une rue de 8 mètres et qu'on va chercher des acheteurs avec un prospect, une façade en face à 8 mètres, les gens ne voudront pas. Par contre, si dans une ville ancienne, dans un centre, ils paieront très très cher pour être dans une rue de ce type. Mais cette rue, elle s'est faite en plusieurs centaines d'années. Donc, ces trois paramètres distinguent la définition de la rue dès le départ.
Alors, tu la complètes, cette définition, en distinguant aussi plusieurs degrés d'épaisseur des rez-de-chaussée. Par exemple, tu parles du passant, poreux, profond et ouvert. Tu peux préciser ces quatre notions-là ?
Alors, moi, je me suis intéressé à ces questions depuis plusieurs années parce que je vois une véritable difficulté à fabriquer un niveau du sol plus général que la seule occupation des rez-de-chaussée d'immeubles. Donc je pense que là aussi, il faut changer de paradigme et ouvrir complètement la vision des choses, c'est-à-dire pouvoir penser la voirie, le trottoir, sous les immeubles, entre les immeubles et derrière les immeubles. Donc c'est l'ensemble de cette section, de cette coupe, qui doit nous préoccuper pour fabriquer une ville plus qui est plus de sens en réalité et plus d'usage, qui est de la valeur d'échange, mais aussi de la valeur d'usage. Donc on peut décomposer. Donc c'est un des exercices auxquels je m'applique dans les travaux que je mène là depuis plusieurs années en plusieurs épaisseurs effectivement. On a parlé des 3A, mais moi je parlais des 3P. Donc passant, c'est-à-dire ce que vous avez au bord du trottoir, ce qui peut être une armoire de distribution jusqu'à des guichets ou tout ce qu'on a vu développer avec le Covid, des boutiques, bon, tout ça c'est du passant. Quand vous êtes sous certains immeubles ou sous certains bâtiments, vous pouvez être poreux. C'est-à-dire, par exemple, je prends l'exemple des pilotis. Les pilotis, vous voyez ce qu'il y a derrière, ou des hauts traversants. Donc c'est poreux parce que vous voyez bien qu'il se passe quelque chose. Et puis derrière, il y a les cours, les jardins, les courets, etc. Des tas de systèmes qu'on connaît bien, mais qu'on sous-estime beaucoup et qu'on, finalement, on emploie assez peu dans les projets. Je pense que c'est une des grandes évolutions qu'on peut essayer de faire.
Et l'ouvert ?
Alors, l'ouvert, c'est une sous-catégorie de poreux, donc je vais pas insister là-dessus. Je voudrais quand même revenir sur le premier point, la question de la voiture. Oui. Donc, je pense que, un peu dans la continuité de ce qui a été dit avant, on est dans un âge où on essaye de fabriquer la ville, principalement à partir du piéton, à partir du deux roues. Et donc un des problèmes actuels, c'est que donc c'est à ce type de voie que je réfléchis. Et donc il faut là pour sortir du zoning, qui est pas tellement le problème du zoning fonctionnel, c'est à mon avis le problème de ce qui est très efficace en ce moment par les techniciens de l'aménagement, c'est ce qu'on appelle des cercles d'accessibilité ou la ville du quart d'heure ou tout c'est concepts électoraux qui marchent assez bien. Et en fait, il faut beaucoup plus penser par des itinéraires du quotidien. C'est-à-dire comment je vais de chez moi à la gare en posant les enfants à l'école, en achetant du pain, en prenant un café avec un copain, en s'asseyant, en faisant une partie de basket quand je reviens, etc. Et si vous pensez les choses comme ça, vous arrivez à faire des itinéraires bien plus grands que les cercles d'accessibilité de quelques centaines de mètres qui vous sont proposés par les transporteurs ou par les quartiers du Grand Paris, etc. Et donc, il faut identifier des itinéraires. Et à ce moment-là, vous allez drainer pour marcher à pied, pour aller en vélo, comme vous aurez plusieurs usages possibles, vous allez commencer à concurrencer la voiture, puisqu'une des grandes forces de la voiture, c'est qu'elle peut faire plusieurs choses au passage.
Alors justement, reconfigurer la rue en tenant compte de ses usages, c'est vraisemblablement repenser le droit
oui.
et l'économie.
Alors, la question, peut-être j'aurais dû dire d'entrée de vue, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans l'urbain en général, hein, le mot ville voulant dire l'urbain, parce que c'est aussi une acception, la rue, la ville, mais
en fait,
c'est l'urbain et les voies d'une façon plus générale. Quel est le paysage qu'on voit aujourd'hui ? On voit un paysage qui est marqué par trois choses, les systèmes sécuritaires, des grilles, qui sont numérisés ou physiques et qui évoluent tout le temps, qui se complètent l'un et l'autre ou qui vont s'affranchir de l'un puis de l'autre. Vous avez la présence de grandes zones imperméabilisées, les stationnements de parking, etc., les sorties de garage, les aires de stationnement. Et puis vous avez de la vacance commerciale, parce que justement, comme on mise uniquement sur des voies commerciales, eh ben on sait bien qu'en fait on n'arrive pas à les remplir. Donc au lieu d'identifier les quelques segments qui pourraient être vraiment commerçants, eh ben on se retrouve avec de la vacance. Donc c'est un peu désespérant. Tout le monde peut constater ça, et les aménageurs le savent très bien, les promoteurs le savent. Tout le monde sait qu'il y a ce problème-là, et on ne raisonne que sur le pied d'immeuble, en pensant qu'il faut trouver une solution magique. Alors l'urbanisme éphémère, on va forcer les carreaux de plate pour pouvoir mettre des commerces de force, même si ils sont pas sur les flux, etc., etc. Donc il faut trouver de la valeur pour répondre à votre question sur la question de l'économie. Et il y a une grande valeur d'usage des rez-de-chaussée. Et ça, c'est vraiment un chantier qu'il faut vraiment ouvrir. Pourquoi ? Parce que si vous faites des logements en rez-de-chaussée et en duplex, par exemple, avec un jardin de devant, donc vous avez des logements plus confortables, avec un jardin de devant et d'arrière, c'est des formes de logements individuels, familiaux, qui marchent très bien. Dessus, vous pouvez monter beaucoup d'étages, parce que je sais que vous êtes très sensible à la question de la hauteur, mais vous relativisez beaucoup la question de la hauteur à partir du moment où le sol, il se passe des choses. Prenons l'exemple de Manhattan, qui est très simple. À Manhattan, vous prenez une rue, ça va être des maisons en rangée, puis la rue d'après, vous avez levé le nez, vous allez voir des trucs de 100 mètres de haut, des trucs de 30 mètres de haut, des trucs de 50 mètres de haut, mais ça devient très relatif parce que ça fonctionne bien au niveau de ce que j'appelle le raid-ville.
Ouais,
et donc, ça permet aussi de créer de la valeur au-dessus sans que ça fasse forcément polémique. Alors après, on peut être contre les tours, c'est presque une autre question. Et donc, il y a de la valeur aussi pour faire des logements pour des personnes âgées, pourquoi les faire monter à des étages qui peuvent justement aussi participer à ce qui se passe dans la rue, à des personnes malades, à des services pour les copropriétés ou pour les locataires en rez-de-chaussée, à des services de coworking, etc. Donc il y a des valeurs. Il y a des valeurs. Simplement, ces valeurs, il faut construire d'autres modèles, un nouveau modèle économique où on se dit, eh bien, quel type de rez-de-chaussée on veut faire ? Est-ce qu'on veut le faire ouvert ? Est-ce qu'on veut le faire avec tel et tel usage ? Ou est-ce qu'on veut faire des logements qui vont se vendre très bien, en réalité ?
Alors, ce raid-ville, par exemple, est-ce qu'il va essayer de contrer un peu l'alignement des immeubles ? Est-ce qu'il va favoriser ce que les Américains avaient appelé le frontage ? Je fais référence au livre de Nicolas Soulier, qui l'a introduit un peu en France. Ou alors, est-ce qu'on va, comme à Bologne, et ce qui est un de mes dadas, construire des arcades, parce que c'est aussi très agréable pour l'été comme pour l'hiver, et puis les jours où il pleut. Alors voilà, est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Parce que quand même, l'alignement, c'est quelque chose qui est terrible pour une ville.
Alors, ce phénomène du frontage, comme effectivement le très bon livre précurseur de Nicolas Soulier en étudiant cette partie passante, en fait. Quelle relation vous avez entre des logements...
Non, mais c'est un peu ce que tu disais, un jardin devant, un jardin derrière.
C'est ça, oui. Ah, ouais. Mais alors nous, on a fait...
Qu'un écran pour le bruit aussi,
voilà.
C'est passionnant.
Il y a beaucoup de
qualité.
On n'a pas le temps là de développer tous les... Ouais. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on a fait beaucoup d'enquêtes dans des pays très divers, y compris dans les urbanisations informelles, Et il y a des solutions très diverses en fonction des cultures, du mode de vie, etc. C'est-à-dire, vous avez à Bruxelles, par exemple, ils arrivent à tout régler en restant strict à l'alignement, y compris en faisant des entrées dans des garages d'une discrétion absolue et un demi-niveau qui permet de monter dedans. Vous avez la cour anglaise qu'on connaît bien à Londres. Vous avez le tatami, la largeur d'un tatami dans les rues de Tokyo. Vous avez, etc. Donc, vous pouvez regarder dans d'innombrables, c'est ce qu'on a un peu fait. Et puis après, vous pouvez regarder dans les centres, dans les faubourgs et dans les périphéries, les différentes solutions. Alors, ce qui est assez clair, c'est qu'effectivement, si vous voulez être résidentiel, il faut avoir une marge de recul. Un jeu de recul qui d'ailleurs peut être assez ouvert à la programmation. Mais il faut planifier, il faut changer les documents d'urbanisme en disant, ben voilà, on va se mettre à 5 mètres derrière, et dans ces 5 mètres-là, ça pourrait être un local vélo, ça pourrait être une pièce en plus pour bosser, ça pourrait être un truc pour l'ado, ça pourrait être un bout de jardin en plus, ça pourrait être ceci. Mais ça, rien qu'en faisant des observations sur ce qui se passe dans le pavillonnaire, par exemple, ou dans les fameuses entrées de ville, vous apercevez qu'il y a des pavillons qui ont abandonné leur jardin, à tort ou à raison, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pour mettre la bagnole, quand la bagnole est arrivée, ou pour mettre la bagnole du visiteur quand ils ont transformé le pavillon en commerce. Et vous retrouvez beaucoup cette longueur de 5 mètres. 5 mètres, c'est une voiture. Donc, comme par hasard, ça a fonctionné un peu comme ça. Et donc, il faut simplement prendre acte qu'il faut avoir une marge de recul, mais qui peut être à la fois de protection pour différentes raisons, le bruit, effectivement, le regard, etc., mais qui peut avoir des usages, et des usages très, très divers.
Alors, ce qui est passionnant dans les études que tu mènes maintenant, c'est qu'il y a une dimension internationale.
Oui.
Et donc, avec même l'ambition de réaliser un atlas des raies de ville, d'une certaine façon. Alors, quelles sont les villes que tu as le plus étudiées et quelles leçons, entre guillemets, tu en tires ?
Alors, bon,
prends quelques exemples seulement, parce que
oui, en fait, c'est pas vraiment bon. C'est la forme de l'ouvrage ne va pas être forcément un atlas, mais il y a effectivement la tentation de l'atlas. Mais l'atlas, ce sont toujours des travaux colossaux et qui demandent des moyens colossaux. Non, on a fait un peu des sondages, donc en partenariat avec plusieurs écoles d'architecture, donc à São Paulo, au Brésil, à Santiago, là pour parler de l'Amérique du Sud, à Rabat, dans la vieille ville, dans les quartiers de maisons nouveaux riches, etc., dans les immeubles avec galeries. On a à Beyrouth, parce que là, on travaille en plus avec une partenaire à la UNES qui travaille à l'école américaine de Beyrouth, qui nous aide à mettre des dessins au propre, entre autres. Voilà, donc il y a une série de pays très différents. Moi, je suis allé pas mal en Asie, donc il y a des exemples en Asie où il y a d'énormes différences. Alors, ce qui est intéressant, c'est à la fois les différences, mais aussi beaucoup les ressemblances. Je parlais de 5 mètres à São Paulo. 5 mètres à São Paulo, c'est une des premières choses que j'ai vues quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire une enquête à São Paulo. Et j'ai vu que cette affaire des 5 mètres, elle fonctionnait pratiquement sur tout le territoire. Pas dans les favelas, mais elle fonctionnait sur le reste des territoires. Donc, on apprend beaucoup de ça. Alors, on apprend aussi beaucoup simplement en observant l'informel, qui, en réalité, est très... c'est la lutte des places, des castes, si vous... Regardez un peu attentivement un marché, et puis après, si vous le dessinez, et vous regardez comment il fonctionne, vous apercevez que c'est très précis. C'est derrière cette image colorée et pittoresque, vous avez des logistiques cachées. Mais par exemple, moi j'habite près du marché de la Ligue, à force d'observer, et grâce à ce que j'avais vu en regardant des marchés, j'ai compris qu'il y avait des relations entre les commerçants qui sont sur les étals le matin, les boutiques qui sont derrière, même des cours qui sont sur l'arrière, parce que le type qui est là, il faut qu'il puisse aller stocker de nouvelles caisses, il faut qu'il puisse aller pisser, il faut qu'il puisse, etc. Donc en fait, vous avez des collaborations dans l'espace et dans la profondeur de l'espace qui sont intéressantes. Donc c'est toutes ces choses-là qui nourrissent. Après, l'idée, moi je suis architecte urbaniste opérationnel, donc je fais toujours un peu tous mes travaux, c'est toujours pour essayer de dépasser des situations où je me trouve dans l'impasse. Et je ne suis pas le seul.
Alors moi, je me souviens avoir vu aussi bien en Égypte qu'au Maroc, en Algérie aussi surtout peut-être, comment, à quel point des habitants d'immeubles qui étaient alignés sur la rue n'hésitaient pas à agrandir leur appartement par un encorbellement, par une terrasse de rez-de-chaussée qui vient carrément s'installer sur la voirie.
Oui, alors vous évoquez le problème du droit. Alors le problème, alors pour revenir en France, c'est qu'on est beaucoup dans la vie de la copropriété ou de la propriété. Les problèmes de la maison individuelle, c'est quand même... je rajouterai quelque chose sur la maison individuelle. Évidemment, il faut changer les formes urbaines de la maison individuelle. Je crois que tout le monde est d'accord. C'est pas de... Il faut... c'est que... la ville de la copropriété est très bloquante. Pour justement, si on veut de la souplesse des usages qui changent, de la mixité fonctionnelle, etc. Bah écoutez, si vous avez assisté une fois à une réunion de copropriété ou ouvert un règlement de copropriété, vous apercevrez que même si vous voulez mettre un local vélo, il faut des majorités très importantes, etc. Donc c'est très bloqué. Donc il y a quand même deux tabous, comme l'a écrit Pierre Vetz récemment dans Libération, c'est les politiques publiques foncières et c'est... La propriété, tous propriétaires, le moment, tous propriétaires. Si vous voulez un peu plus de souplesse, c'est bizarrement plus facile d'avoir des ensembles locatifs. Si vous voulez faire des cours et qu'elles soient utilisées et non pas enfants interdits, etc., il faut réfléchir à tout ça.
Alors, essayer de miser sur un renouvellement des usages des rues, est-ce que ça revient à contester un autre objet que tu as étudié dans un précédent ouvrage très important, le centre commercial?
Alors,
ils existent, oui, alors, en même temps, ils sont là, ils attirent encore beaucoup de monde.
Alors, nous on voit large, donc on invite à voir large. Et voir large, ça veut dire s'intéresser aux lotissements de maisons individuelles, oui, qui sont des immenses surfaces imperméabilisées, aux gigantesques aires de parking des centres commerciaux, et de voir comment tout ça pourrait muter. Alors, sur les lotissements de maisons individuelles, si on veut muter, c'est un des obstacles, Christine Lecomte en parlait tout à l'heure, mais c'est le plan local d'urbanisme qui en fait répond au départ aux aspirations des gens, c'est-à-dire prendre le plus de distance possible avec leurs voisins, pas avoir le meilleur jardin utile, c'est que la maison soit distanciée des autres maisons. C'est quand même ça le modèle tel que malheureusement il s'est développé de maisons individuelles au lieu de régler le problème de devant et derrière et d'avoir un vrai jardin utile et devant et derrière et pas le plus grand jardin possible de la terre. Donc il faut s'occuper de ces aires là. Donc il faut des mutations. Alors je pourrais faire une remarque un peu générale sur comment les mutations s'opèrent de ma petite expérience sur pendant quelques dizaines d'années. Hein. C'est qu'en fait, si vous travaillez des idées, si vous essayez de les rendre assez concrètes, hein, en connaissant les mesures, en un peu d'expérience pratique, pendant un temps, le monde de l'aménagement va dire ben non, vous êtes utopiste, ou ça marche pas, ou les gens veulent pas ça, ou ils veulent pas que les trams viennent jusqu'aux centres commerciaux, etc. Donc je vais vous prendre plusieurs exemples. Mais au bout d'un moment, quand le modèle marche moins bien, et c'est vrai pour les maisons individuelles, si les promoteurs se mettent à faire d'autres formes de maisons individuelles, c'est parce que le foncier est devenu trop cher. Donc, tout d'un coup, ça a eu des vertus de faire des maisons en rangée. Pour les centres commerciaux, je pense que il va se passer qu'enfin, ils vont, après avoir dû accepter le tram et maintenant qu'ils le plébiscitent, il va y avoir la transformation des parkings en quartiers de logement. Ce serait parce que pour l'intérêt d'avoir une clientèle captive et que ces centres commerciaux, une bonne partie d'entre eux, sont maintenant gagnés par l'urbanisation. Donc il faut surtout arrêter la fuite en avant, le moratoire, je ne sais pas s'il va marcher, et il faut reformater entièrement les grands centres commerciaux qui sont gagnés par l'urbanisation.
Alors je reviens au tout début de l'exposé, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait des boutiques du centre ancien qui ont périclité et qui sont aujourd'hui fermés?
Alors, d'abord, il faut vraiment se focaliser sur les itinéraires intéressants.
Ouais,
c'est-à-dire pas uniquement je fais une rue franchisée pour que gens de la périphérie viennent. Pourquoi pas, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est vraiment identifier les bons itinéraires, les itinéraires du quotidien des habitants et aussi du week-end, qui ne sont peut-être pas exactement ceux du quotidien. Donc si vous avez bien repéré qu'il y a 80% des rues qui sont résidentielles, donc qui sont des allées, donc qui sont des choses soft, vous avez juste 3 mètres pour que les pompiers puissent passer, que vous puissiez déménager.
On peut arborer et végétaliser.
Et voilà, donc vous êtes dans des ambiances calmes, tranquilles, tout le monde aime ça, ça marche très bien. Donc il faut franchement adopter ce modèle-là à 80-90%. Reste après à identifier les itinéraires,
et à conforter ces itinéraires-là. Donc des trottoirs assez confortables, laisser des concessions pour les commerces s'ils veulent utiliser le frontage. Il n'y a pas uniquement des frontages résidentiels, mais des frontages actifs, je dirais. Et à ce moment-là, vous pouvez penser faire une offre commerciale qui soit plus dynamique, qui corresponde à des vrais flux du quotidien et qui permette des multi-usages.
Alors, quid de la rue dans ces produits immobiliers qui marchent très très bien à l'échelle planétaire, que sont les gated communities?
Alors, le problème, alors les gated communities, le problème c'est déjà d'éviter que des gens qui ne sont pas en gated community, même qui sont en lotissement, vous pouvez observer ça, et petit à petit, sous prétexte que pour la sécurité des enfants, etc., on ferme. Donc déjà, vous avez plusieurs types de gated communities. Vous avez des produits qui peuvent être très denses. D'ailleurs, il n'y a pas que les maisons individuelles. À Toulouse, il y a des promoteurs qui vont développer ça.
À Sao Paulo, c'est des...
La densité tout d'un coup. S'il y a des grilles, ils acceptent beaucoup la densité. Donc il faut déjà... les mouvements un peu de distance des élus, parce que c'est quand même eux qui signent ou qui signent pas le permis... Donc si les riverains disent bah, « Écoutez, avec la gated community, vous êtes en train de nous fabriquer la sortie de ma rue, je ne peux plus aller à l'école, on revient à la question d'itinéraire, je ne peux plus aller à l'école en 15 minutes à pied comme je le faisais avant, je suis obligé de faire le tour, donc je vais prendre ma voiture. » Donc voilà. Donc il faut déjà mettre des sauvegardes de ce type-là. Et après, il faut que dans les quartiers de maisons individuelles, il faut accepter une diversité fonctionnelle. Il faut pouvoir ouvrir un garage, ce que vous pouvez pas faire. C'est-à-dire, non seulement c'est la plus grande distance par rapport aux voisins, et ça, c'est des choses qui vont évoluer et qui commencent déjà à évoluer parce que encore une fois, sous la pression économique, finalement, par exemple, les fils et les filles des conseillers municipaux, ils peuvent plus loger leurs enfants. Et ils peuvent pas diviser leur terrain. Et ils héritent d'un terrain d'un parent, ils savent pas régler l'héritage, le divorce, etc. Et donc, petit à petit, ils se disent, écoutez, il faut accepter de densifier, diversifier un peu ces quartiers de maisons individuelles. Et donc, ça permettra aussi plus de proximité entre les services du village, du bourg ou de la ville moyenne dans lequel on est mal inséré aujourd'hui.
Alors il y a un autre thème qui surgit quand on parle de la rue, bien sûr, c'est celui de la sécurité. Et tu te souviens que au début des années 70, Oscar Newman avait écrit un ouvrage sur l'espace ou l'urbanisme défendable. Alors est-ce que la rue lui redonnait justement cette incroyable diversité, ce qui est mon point de vue depuis longtemps, est-ce que c'est pas d'une certaine manière ne pas regarder aussi...
Alors la question c'est la sécurité, c'est un sujet, il ne faut pas se laisser intimider par cette affaire-là, parce que sinon, on reste chez soi et on fait
on met des caméras de vidéosurveillance partout.
Voilà, alors, on le sait, et de reconnaissance faciale, etc. Donc, cette évolution où on ne fait que régulariser et non pas réguler, contrairement à ce qu'on raconte, les phénomènes, il faut... Alors, on ne sait pas comment ça va évoluer, parce qu'il y a une espèce de paradoxe. Plus vous allez avoir de surveillance virtuelle et numérique, peut-être moins vous aurez de surveillance physique et de clôture, ou vous aurez les deux. Voilà. Donc, moi, j'essaie pas trop de me borner à ça, y compris parce que j'observe des... Alors, moi, je milite maintenant beaucoup pour faire des cours. Et plus tellement les îlots ouverts, qui sont la règle que Christian de Potzenpark a inventée, qui maintenant est quasiment le béaba de l'urbanisme des zones d'aménagement concertées en Europe, même plus largement. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment traversables, parce que les copropriétés les empêchent de traverser. Et en revanche, les cours ont beaucoup de vertus, y compris de régler un certain nombre de questions de sécurité. Et en plus, si les cours... Comme on peut le voir, par exemple, Faubourg Saint-Antoine. Je prends un exemple parisien, mais bon, c'est un bon exemple. Les grandes courées du Faubourg Saint-Antoine. Vous êtes intimidé parce qu'il y a des grandes portes avec un code. Vous dites jamais je peux rentrer là-dedans. Et en réalité, dans la journée, la plupart, le code n'est pas installé. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui travaillent dans la cour, au rez-de-chaussée. Il y a aussi des rangées de maisons, et il y a aussi des services, etc. Et donc on est obligé de laisser passer les gens. Ça fait de la co-surveillance à l'intérieur de la cour. Et les cours, à mon avis, ont beaucoup de vertus. Ils ont une échelle qui est plus maîtrisable dans la gestion, dans l'entretien, dans le voisinage, etc. Et donc, c'est aussi un des paramètres. Alors, il ne faut pas tomber dans l'idée qu'il y a des formes urbaines qui sont plus sécuritaires que d'autres. On pourrait faire des démonstrations dans tous les sens. On n'y arriverait pas.
Alors, la Covid que nous avons tous vécue, avec ses confinements, avec son couvre-feu, etc., et surtout avec l'arrêt de la circulation automobile, comme tu l'écris dans un de tes textes, a permis la prolifération de l'empiètement des commerces, en particulier les cafés et les restaurants, sur des terrasses, souvent un peu improvisées avec des palettes de bois. Est-ce que ça a inventé quelque chose qui va pouvoir nous servir? Est-ce que ça a modifié les comportements des piétons?
Non, ça reste quand même assez marginal. Moi, je travaille dans un quartier où il y a beaucoup d'agences d'architectes, où il y a eu beaucoup de terrasses et contre-terrasses qui ont été enlevées. Je ne pensais pas que ça se ferait comme ça du matin au lendemain. Très vite. Je pensais qu'il pouvait y avoir une réflexion de transformer un certain nombre justement de rues qui marchent pas très bien, mais Paris est quand même une rue où le commerce, grosso modo, donc c'est très particulier Paris pour tester ça. Mais c'était un exemple assez intéressant dans la mesure où on pouvait se dire que tous les problèmes que pose l'idée de transformer une voie en voie automobile, double sens de vélo, une voie comme ça de 12 mètres, qui sont les voies classiques parisiennes. Si on voulait les transformer en une voie résidentielle en allée plantée avec des jardins devant et qu'il n'y ait plus de commerce, etc., ben voilà les problèmes que ça pose et les problèmes qui pourraient être résolus. Donc moi, j'ai fait des petits exercices comme ça parce que ça m'intéresse.
Et alors, est-ce que ça obligera aussi de repenser, j'imagine, le mobilier urbain et d'éviter tous ces potelets identiques dans toutes les villes de France et même d'Europe?
Oui, bon. Ça, moi, je suis toujours un peu... je n'arrive pas à comprendre pourquoi on investit tant d'argent dans des bordures en granit, très encombrant, plus les potelets, plus tout ce que tu veux, pour empêcher les voitures de circuler dans certains couloirs. Il me semble, mais enfin bon, c'est presque une discussion de café du commerce, là, mais il me semble que si on mettait des à la manière japonaise, des très larges bandes blanches très visibles, et qu'on fait une campagne d'amende très dissuasive, parce que c'est très dissuasif. Si vous vous faites choper que c'est 100 € l'amende au bout de la rue, vous ne le refaites pas deux fois. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on investisse. Il vaudrait mieux investir dans des mesures de surveillance efficace de ces couloirs-là que de faire des aménagements urbains coûteux, très difficiles à faire. Ou bâclés, ce qui est un peu le cas.
Oui, d'autant qu'on a remarqué dans de très nombreuses villes italiennes, par exemple, il n'y a pas de trottoir. Ce qui est le trottoir est au même niveau que la chaussée, et les automobiles font attention et n'écrasent pas plus les gens.
Les centres-villes italiens, ils sont réglementés très sérieusement. Si vous montrez, le touriste, vous faites piéger assez souvent. Si vous montrez le bout du nez de votre voiture, parce que vous ne connaissez pas bien le système, des aides... particulière, là, ils ont inventé un acronyme, vous vous faites piéger, et c'est très dissuasif, en fait.
Donc, en fait, il faut à la fois domestiquer les automobiles, et les deux automobilistes, évidemment, et en même temps, les accompagner par des nouveaux ménagements, comme on dit maintenant, à juste titre, des trottoirs et des rues.
Oui, mais c'est très difficile de... Ça a un coût, tout ça. C'est-à-dire changer le profil d'une rue avec un trottoir, parce que sous le Redville, il y a les réseaux. Et changer les réseaux, ça coûte une fortune. Changer le fil d'eau, par exemple, de nivellement d'immeubles ou de maisons qui sont au bord, de commerces, d'entrées de porches, etc., c'est une opération très, très compliquée, mine de rien. Donc il faut être astucieux, parce que, il faut trouver des changements de profil ou de répartition des usages dans l'espace public qui réussissent à régler ça.
Les partisans qui, à la fin des années 90, imaginaient une dématérialisation de la plupart des commerces et des services. La banque disparaîtra, on fera tout sur son smartphone, la bibliothèque municipale disparaîtra, on aura accès à une bibliothèque sur Internet. Tout ça allait dans le sens d'abandonner la rue, d'une certaine manière.
Ah, oui, parce que là, vous revenez à une définition...
Oui, je reviens à la rue.
À la rue commerçante.
Oui, mais la rue passante, oui, bien sûr.
Oui, mais la rue active. Donc, active, je pense qu'il faut faire d'autres rues qui n'ont pas bien sûr, ces problèmes-là. Mais c'est vraiment une révolution mentale à faire, et y compris dans la façon dont on fait les projets, etc. Et dans tous les acteurs économiques, bien entendu. Après, bon, l'évolution du commerce, ben, vous pouvez inviter Pascal Madry, qui en parle très bien, qui connaît très bien tout ça, mais un des points qui soulève, dans la partie matérielle, immatérielle, les dark kitchens, etc., il y a maintenant, grâce aux applis, ou à cause des applis, il peut y avoir du commerce par des points. Pas uniquement du linéaire, c'est pas contradictoire avec ce que je dis qu'il faut faire des itinéraires commerciaux. Mais vous pouvez avoir un type qui a l'invention d'un produit, d'une boutique, il a une idée. Il peut s'installer. C'est ce que Google a compris, parce que Google, par exemple, fait des plans où vous pouvez aller au quatrième étage et un type va faire. Un produit très particulier, ou le faire très bien, ou il va dire très à la mode. Il n'a pas besoin d'être uniquement dans la dérive urbaine et dans l'effet de souk du commerce. Donc, ça va garder l'effet de souk. Mais il peut y avoir aussi des points dans la ville qui vont faire que le modèle, en tout cas, dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la ville physique, la ville, va peut-être un peu évoluer dans ce sens-là.
Alors, il y a un livre que j'avais réédité il y a quelques années de Gustave Kahn, qui est l'inventeur du verlibrisme, donc qui est un poète post-malarméen, en 1900, qui s'appelle L'esthétique de la rue, dans lequel il explique justement que dans tous les pays du monde, les rues, alors passantes ou non, commerçantes ou non, sont quand même indispensable, non seulement à la rencontre, mais à l'échange au sens de la communication. Et donc ça, c'est quelque chose qui demeure quand même.
Oui, moi j'ai pour ce bouquin qu'on prépare, j'ai hésité à l'appeler, mais j'ai fait un dossier dans l'environnementalisme qui s'appelle « Le droit au Redville ». Et donc, pour ce bouquin, il va plutôt s'appeler « Redville » plus simplement. Et ça m'a amené à relire les textes d'Henri Lefebvre. Et oui, il parle très très bien, avec beaucoup de préscience, valeur d'échange, valeur d'usage, remarquablement bien, oui, bien sûr.
Merci, David.
Merci à vous.
Urbanité, une émission en partenariat avec Terre Urbaine à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.